Tu vois.
Édition 2020.
Documentaire. L'humanité.
Festival. Rencontre.
Auteur.
Suède.
Projection.
Réalisateur.
Jury.
Édition 2020.
Microphone.
Festival.
Projection.
Production audiovisuelle.
Nous accueillons maintenant Thomas Lacoste qui a réalisé le film Pays Basque et Liberté, un long chemin vers la paix, accompagné de Naya et Théo. La salle était comble, les débats assez musclés. Voici comment le film est présenté dans le catalogue du FIPA, nourri d'images d'archives et d'entretiens exclusifs, narré par des acteurs locaux et internationaux de tout premier plan. Ce film développe sous un éclairage inédit un autre récit du conflit basque depuis la guerre d'Espagne jusqu'au désarmement de l'organisation politico-militaire État en avril 2017 et son autodissolution le 3 mai 2018. Merci d'être avec nous, Thomas, et je vous propose, Naya ou Théo, d'ouvrir la discussion.
Donc bonjour. D'abord, je voulais vous énoncer les points qui m'ont beaucoup intéressée sur votre documentaire. Donc j'ai vraiment apprécié voir beaucoup de monde pour ce documentaire, ça m'a vraiment fait plaisir. Entendre la langue basque, ça fait également beaucoup plaisir. En le visionnant, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de points de vue différents et c'est quelque chose de très intéressant. J'ai ensuite beaucoup apprécié les images d'archives que vous avez mis dans votre documentaire. C'est aussi un point très intéressant de découvrir des images inédites comme ça. Et moi, j'ai eu l'impression de redécouvrir des lieux que je connais, comme Anglette, par exemple. Pour terminer sur les points qui m'ont énormément intéressée, je suis très contente de savoir que ce documentaire est un objet de mémoire, avant tout, et qu'il est nécessaire, je trouve, pour moi. Voilà. J'avais une question à vous poser. Comme je l'ai dit, les images d'archives m'ont énormément touchée. D'où viennent les images d'archives, comme par exemple celle du début, avec les hommes cagoulés? Et comment les avez-vous sélectionnés?
Alors, dans ces travaux de recherche documentaire, il y a deux aspects. Il y a l'aspect professionnel et il y a le petit bonheur, la chance. Et il se trouve que je connaissais une des protagonistes de ces images qui sont très belles, effectivement, en 16 mm. Et donc, on a pu partir au long cours en recherche de ces images. Je pensais, moi, vu la qualité de la patte cinématographique de ces images, que c'était réalisé par des cinéastes suisses, parce qu'on est dans les années 70, et la Suisse à ce moment-là avait des documentaristes très très pointus, et il se trouve qu'ils sont pas suisses mais belges, qui était une autre école très forte du documentaire dans ces années-là, et c'est auprès de la télévision publique belge que nous avons exhumé ces images, et qui n'étaient pas cataloguées pour une raison ou une autre, je ne sais pas, peut-être liée à son sujet, mais on les a effectivement retrouvées et comme vous, je partage votre regard sur elles. Effectivement, elles sont vraiment très très belles, très très belles. On en fait un usage assez parcimonieux dans ce 52, dans le futur opus, le long métrage qui va suivre l'hypothèse démocratique. Elles seront beaucoup plus présentes,
plus longues aussi.
Tout à fait, ouais. Tout à fait, ouais.
C'est-à-dire que c'est un vrai document assez long, c'est un film en fait, vraiment.
Oui, alors
c'était donc juste une trace de. Alors, l'origine de ces archives est un film monté.
Ces images sont issues d'une série de trois reportages qui ont été faits. Ces trois reportages qui ont été réalisés entre 1974 et 1978. Donc un moment de basculement entre deux régimes, franquiste et la transition démocratique. Donc un moment d'effervescence très forte au Pays Basque. Quand je dis fervence très forte, de mobilisation et de lutte sociale extrêmement importante, à caractère quasi insurrectionnel.
Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'à l'époque, le film était diffusé, ce film-là.
Tout à fait.
Il avait connu une diffusion, d'accord.
Ouais.
Sur la représentation du combat, qui est un des thèmes abordés dans votre film, hein, sur la question de la représentation, c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, elles paraissent provenir d'archives d'ETA directement. Enfin, on pourrait imaginer comme ça une... Mais non, c'était une représentation d'un engagement politique et militaire. Ouais.
Tout à fait, ouais. Et on peut, c'était très étonnant de voir, de voyager dans ces archives. Effectivement, dans les années 78, on avait des plateaux, des prime time de la télévision publique française, où on parlait des résistances, de la résistance basque. Gisèle Halimi était invitée et commentait le procès du Burgos sur les plateaux de télévision. Des choses qui sont à peu près impensables aujourd'hui, évidemment, alors que le conflit est sorti de sa phase militaire de manière assez conséquente, inédite. Et effectivement, aucun média aujourd'hui ne mentionne ces faits et n'en font cas ou trace. Se contentant par contre de continuer de commenter la gestion policière et répressive de cette histoire.
Théo ?
Je rejoins ma collègue Naya. Et aussi, ce que j'ai apprécié, c'est que vous expliquez bien les origines du conflit, qui sont souvent, dans plusieurs films parlant et traitant de l'ETA, qui sont souvent mal expliqués ou trop brève et on comprend pas bien. Et donc, pour des gens qui n'étaient pas de la région et qui ne connaissaient pas le conflit, pour eux, c'était l'ETA était simplement un groupe terroriste, alors qu'à la base, c'est quand même pour contrer le franquisme aussi. Donc, ça, j'ai très apprécié. Et j'ai vu que vous avez réalisé plusieurs films autour de l'immigration, de la frontière, et aussi plusieurs films qui parlaient de la justice en France. Est-ce que ce film est un mélange de ces deux choses, donc la frontière et la justice française, pour parler de ce cas du Pays Basque qui est à la frontière entre la France et l'Espagne et aussi qui concerne la justice française et espagnole?
C'est une bonne question. Je ne sais pas. C'est très difficile. Là, on est à chaud. C'est la première pour nous. C'est la première mondiale du film, mais c'est aussi la première équipe. C'est la première projection pour les participants du film, et donc c'est vrai que
projection au Pays Basque.
Première projection au Pays Basque, première projection de tout court. Premier partage avec du public, les équipes techniques et les intervenants au film.
Oui,
donc nous sommes ce soir un peu troublés, c'est comme ça. Mais c'est une soirée qui s'annonce heureuse. Hein. Oui, alors bien sûr, les films s'inscrivent dans une histoire, en l'occurrence, une certaine façon, elles s'ordonnent dans ma filmographie de dire qu'il y a un rapport direct entre tout ça. Je ne peux pas le dire ce soir. Je vous laisse le droit de l'articuler, bien entendu. Mais d'être sensible effectivement aux questions d'injustice, aux questions sociales, aux questions de territorialité, bien sûr que ce sont des sujets qui me préoccupent depuis longtemps, y compris même avant de commencer à plonger dans le cinéma, dans une période antérieure où j'animais entre autres des revues de pensée critique où la question du conflit et de ses résolutions étaient pour moi des sujets extrêmement conséquents, où on a passé beaucoup de temps de réflexion et d'écriture. Mais effectivement, donc après, sur ce conflit-ci, sur ce projet-là, il me semblait effectivement extrêmement important d'abord de pouvoir accompagner, c'est une chance pour un cinéaste de pouvoir accompagner une histoire qui se déroule sous nos yeux en direct, de pouvoir documenter une histoire qui se passe pour partie dans un présent immédiat, et d'accompagner aussi un geste qui est sûrement qui est inédit pour notre époque moderne, qui est la sortie unilatérale d'un conflit, c'est-à-dire la sortie par une population, une organisation qui va seule mettre fin à une activité militaire, rendre seule les armes et seule s'autodissoudre. Sans, donc de manière totalement unilatérale, hein, sans l'apport d'un tiers, donc en l'occurrence deux États qui bordent ce territoire, l'État espagnol et l'État français. Et je pense que ce geste-là est une très belle nouvelle pour l'humanité, de savoir que voilà, des peuples seuls peuvent s'émanciper et peuvent éclairer bon nombre de zones de conflit à travers le monde qui connaissent le coût des armes et enfin le prix des armes et le coût de l'écrasement des États. Et bon, voilà, on a un exemple dans le film de ce conseiller Alberto, un conseiller spécial des affaires étrangères israélien, qui dit qu'effectivement si on avait un acte d'une telle conséquence au Proche-Orient, ça bouleverserait les champs.
Ce qui est très intéressant, c'est de prendre aussi, de comparer ce conflit-là et le comparer à plusieurs conflits de l'Israël, de l'Irlande. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant de voir si ce qui s'est passé aux Pays-Bas s'était passé ailleurs, comment ça aurait pu... se passer, et est-ce que ça aurait été différent, est-ce que c'était les bonnes solutions ou pas. Ça, c'était vraiment très intéressant de voir ça et de comparer ce conflit avec d'autres conflits qui ont à peu près les mêmes caractéristiques.
Alors ouais, même si ils ont évidemment beaucoup de différences, mais ce qui était aussi intéressant, c'était de voir comment ce conflit, à un moment donné, se retrouve dans une impasse, a été rééclairé par des acteurs internationaux qui se sont mobilisés dans les négociations, qu'ils soient assesseurs, conseillers, ex-combattants, enfin c'est le cas de Jerry Adams par exemple, mais voilà, et donc ils vont venir éclairer ce conflit dans une impasse et vont aider à faire franchir un pas qui va déboucher sur la fin de la lutte armée. Et ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est de voir d'innombrables négociateurs ou chefs de file j'en ai 6 ou 7 en tête, de 6 ou 7 conflits à travers le monde, qui aujourd'hui ne viennent plus éclairer le conflit basque pour donner des conseils, mais viennent s'inspirer de cette sortie unilatérale pour essayer de ramener en fait cette expérience chez eux, pour voir comment elle pourrait faire avancer leur propre scène.
Par rapport au prolongement en long métrage, je trouve ça extrêmement intéressant. Vous dites, vous suivez effectivement la construction du réel. Là, il y a l'histoire qui se produit devant vous. Vous la documentez. En fait, ce qui me semble assez beau et qu'on voit particulièrement chez les jeunes aujourd'hui qui parlent le basque. C'est comme si le basque batois était aujourd'hui effectif. Il y a passage de génération. Ce que vous documentez, c'est la parole. Ouais. Pas le processus en tant que tel, enfin peut-être dans le long métrage, mais c'est la parole et c'est cette absolue nécessité de la faire sortir. Alors, on pourrait parler peut-être du lissage formel qu'impose le format télévisuel. Et je pense que vous le faites en conscience. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un film diffusable, broadcast. Alors voilà, ça crée un certain rapport, évidemment, à la puissance de la parole, à la représentation politique. Bon, c'est assez drôle de voir Pierre Jox avec une espèce de distance comme ça, un petit peu comme si de rien n'était. On sait bien que c'est plus vivant, que c'est plus contradictoire, qu'il y a évidemment des combats politiques et idéologiques là-dedans dont il va bien falloir à un moment donné qu'on arrive à les poser de manière constructive. Il n'y a pas un ETA, il y en a plein. C'est une longue et dernière lutte marxiste-léniniste, communiste certainement. Donc une fois qu'on aura levé le levier anticommuniste, est-ce qu'on pourra comprendre ça? Enfin, on a bien vu que c'était les échos qui passaient au sein de la salle levaient ces contradictions-là. Et de ce point de vue-là, le film était absolument nécessaire et je suis content que les jeunes générations... Alors c'est dommage qu'on n'ait pas d'autres élèves qui ne sont pas directement, affectivement, familialement liés aux Pays-Bas, parce que je pense que derrière, il y a un modèle de... La question de l'indépendance et de l'autonomie, elle se déploie partout. Si on parle de cinéma indépendant, on pourrait continuer cette discussion autrement. Oui, dans le long métrage, pour y revenir, est-ce que la question du récit de cette histoire en train de se faire apparaît davantage ou comment...
Oui, alors évidemment, alors d'abord, pour moi, c'est une première hein, de répondre à une commande, à une proposition, de m'inscrire dans un format télévisuel. Jusqu'ici, moi, travailler uniquement pour le cinéma. Donc effectivement, le côté 52 minutes était un peu vertigineux par rapport à mes formats traditionnels. Mais en même temps, c'était intéressant parce que ça m'a permis effectivement de nous affranchir de l'histoire, des bornes historiques qui sont prises en charge par le 52, et effectivement de penser le long métrage de manière purement cinématographique, donc vraiment avec une impulsion immersive très très grande où là on va rencontrer des personnages où l'on court, on travaille du coup non plus du point de vue de l'histoire mais des blocs sensibles cinématographiques qu'on a pu créer sur ces 3 ans de tournage, donc 270 heures de rush.
C'est un film de montage du coup.
Voilà, et c'est vraiment on est de nouveau avec le cinéma et on est très heureux de pouvoir retrouver ça. Et effectivement, ça emporte tout autre chose. On rentre en profondeur. On n'est plus sur le récit du conflit, de sa sortie, raconté par différents acteurs, notamment des acteurs internationaux. Là, les acteurs internationaux, inutile de vous dire qu'ils ne tiennent pas face à ces paroles, à ces blocs sensibles qui vont être travaillés dans ce long métrage. En revanche, ce qui tient, ce sont des âmes, des hommes et des femmes qui ont porté ce conflit et qui ont aussi porté sa sortie. Et ça, c'est des vraies rencontres qui, je pense, moi qui les ai travaillées pendant 3 ans, continuent à me bouleverser. Donc j'espère qu'elles auront des puissances sensibles suffisantes pour aller toucher les spectateurs.
Est-ce que s'annonce un film frontière tel que vous parlez du cinéma frontière? J'aime beaucoup ça, surtout par rapport à nos élèves. Jouer des frontières du genre et refuser toute naturalisation, notamment entre fiction et documentaire, je répète pour tout le monde. Jouer des frontières de genre et refuser toute naturalisation entre fiction et documentaire. On sera faisant intervenir aussi de la littérature, de la peinture. C'est drôle parce que quand je lis cette définition, je pense tout de suite à Malour, le premier film basque, entre guillemets, qui était fait par un photographe et un sculpteur, où d'un coup, il fallait convoquer tout ce qui faisait... Bon, les années 70, c'est leur grande force esthétique et politique. Tout relever comme ça pour arriver à dire la singularité de tout ça.
Ouais. Donc on fait appel effectivement à la peinture, à la musique, pas mal, et on est moins du côté de la fiction que j'aurais aimé l'être, mais parce qu'encore une fois, ce qui est charrié par ces blocs sensibles, par ces vies, par ces femmes et hommes qui ont porté ces combats, est d'une telle force que je me retrouve plus pris dans une lignée dans un travail plus lance-manien, où je suis obligé vraiment, c'est-à-dire qu'eux-mêmes me convoquent, appellent du cinéma. Et un autre, donc, et dans la mesure où ces voix, elles sont n'ont jamais été entendues ou très peu entendues ou tellement faiblement entendues. Je suis obligé de leur donner toute la place. Et c'est vraiment, c'est un autre rapport au temps, c'est un autre rapport à mon propre cinéma. Et donc, je les remercie de me déplacer à ce point. Mais je pense qu'effectivement, ce projet, c'est un projet qui est en trois parties, qui est un triptyque, donc qui commence effectivement. J'avais besoin je me rends compte que ce 52 m'a servi à m'affranchir et à poser quelque chose aussi pour le plus grand nombre ici à faire un point sur cette histoire et sa résolution, mais à l'extérieur aussi de sortir un peu de la vox populi, des stigmates que subit et par la méconnaissance et par le mépris ce pays, pour pouvoir passer à ce long métrage au long cours où là effectivement on va être en immersion avec cette histoire et ses protagonistes. Et puis pour finir, donc un troisième espace qui m'est cher aussi, qui a un tout autre rôle, ou qui est une plateforme web numérique, où va être libéré l'ensemble de ces 70 entretiens réalisés sur ces 3 ans en libre accès, donc plus avec dans une visée patrimoniale au sens conservatoire du terme. Conserver ces récits précieux de 5 générations et dans une dynamique de transmission intergénérationnelle pour que vous, jeunes gens, ou les plus jeunes encore, puissent dialoguer avec vos aînés, dialoguer de choses qui nous regardent, quoi. C'est-à-dire comment on pense aujourd'hui ou pas l'émancipation, comment ou pas on accepte l'idée de changer de modalité d'expression, en passant d'une expression politico-militaire à une expression purement politique. Comment ce sensible-là se transforme, comment tout ça se réaffecte. Et là, il y a quelque chose d'assez passionnant. Ouais.
Merci beaucoup, Thomas.
Merci à vous.
Merci, Naya. Merci, Théo. On regardera de près comment cette transformation s'accompagne d'inventions esthétiques qui permettent de soulever ces nouveaux moments. Jingle.